VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h temps universel en Somalie. L'explosion d'une voiture piégée aujourd'hui près d'un site des Nations Unies à Mogadiscio, la capitale, a blessé 4 personnes qui gardaient le site, a annoncé la police. L'attentat a été revendiqué par les insurgés des milices Shabab. La bombe avait été placée dans une voiture garée dans un garage devant un site appartenant au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a précisé le policier. Le porte-parole des opérations militaires de Shabab, Cheikh Abdiaziz Abou Moussab, a déclaré que le groupe était derrière l'explosion. Un attentat suicide à la voiture piégée contre un barrage de sécurité érigé devant le siège de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, à Mogadiscio, avait fait 3 morts lundi. Il avait été aussi revendiqué par les Shabab. Rétrospective 2017 au Mali, une meilleure vision et gestion de la question migratoire, paix et stabilité partout au Mali, création d'entreprises locales pour fournir davantage d'emplois aux jeunes. Tels sont, entre autres, les souhaits des Maliens pour 2017. Si certains sont optimistes, d'autres restent en revanche très pessimistes à cause de l'insécurité, du chômage et aussi du rapatriement des Maliens de l'extérieur. À Bamako, rejoignons notre correspondant Kassim Traoré.
L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ce début d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir.
Dramane Konaté, conseil pédagogique à la retraite. De point de vue perspective, bon, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes, nous sommes des religieux. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix. Parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche. Nous voyons que notre président, il est bien engagé. Sérieusement, il a vu que ce n'était pas une question de force.
La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens.
Moi, je suis Abdelaziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Et pendant ces sommets-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ces sommets-là, peut-être ça va faire des changements avec multifonctionnel de tous les chômages. Mais moi, je pense que les sommets-là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes.
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays.
Souri Brahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
Pour le secrétaire à la communication du parti Djama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou.
Imagine, quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, ben, qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. Ouais. Ce qu'on voit. Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution.
L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue.
Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là.
Kounibadi Daouda Kindo. Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président de la commission électorale indépendante gambienne, Aliou Mouma Ndiaye, s'est réfugié au Sénégal, voisin, par crainte pour sa sécurité, a affirmé mardi soir à l'AFP un membre de sa famille. On ignore pour le moment quand M. Ndiaye a quitté la Gambie, avec qui, tout comme la nature des menaces à son encontre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié a radié définitivement la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, de la liste des ONG locales. Monsieur Barandagié accuse ITK de ternir l'image du pays et a semé la haine et la division au sein de la population. Tout le contraire pour la présidente de la COSOM, la coalition de la société civile pour le monitoring électoral, Justine Nkuruziza.
Personnellement, je trouve rien d'étonnant dans la décision qui a été prise par le gouvernement du Burundi, parce que la Ligue ITK est parmi les organisations qui dérangent. Parce que la Ligue ITK, depuis qu'elle avait même été suspendue, avait continué à recueillir les exactions, les violations des droits de l'homme sur terrain. Et ça énervait le gouvernement du Burundi parce qu'ils veulent tout faire en silence. Ils veulent continuer à violer les droits de l'homme, à tuer, à créer beaucoup de fausses communes à l'insu de tout le monde. Alors la Ligue ITK a beaucoup de présence sur terrain et les membres continuent à rapporter ces crimes. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est une réaction très normale pour moi, parce que le gouvernement a tendance à faire taire, comme il a fait taire les radios. Il continue à faire taire même les organisations de la société civile qui travaillent pour la défense des droits de l'homme.
Justine Nkuruziza de la société civile burundaise en exil au Canada. En RDC, moins d'une semaine après la signature de l'accord politique ayant sanctionné les discussions entre acteurs politiques congolais sous les auspices de l'Église catholique, la majorité présidentielle qui a signé cet accord sous réserve remet déjà en cause certains de ses passages. Aubin Minaku, le secrétaire général de la plateforme politique de Joseph Kabila, assure que toutes les dispositions de cet accord qui ne respectent pas la Constitution et les lois congolaises sont nulles et de nul effet. On l'écoute au micro de Thierry Kamoundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. La majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y verrons. L'accord signé est une étape réussie, mais qui a une autre étape, et cette étape concerne l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République sont nulles et de nul effet.
Aubin Minaku, secrétaire général de la plateforme politique du président congolais. La coalition au pouvoir en RDC a conditionné sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de co-gestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila. La victoire de l'homme d'affaires Jovenel Moïse à l'élection présidentielle en Haïti du 20 novembre a été confirmée officiellement mardi après le rejet par le tribunal électoral des accusations de fraude. D'après la Constitution, le nouveau président devra prêter serment au plus tard le 7 février. Il succédera à Joslem Privet, qui assumait l'intérim de la présidence depuis la fin du mandat de Michel Martelly en février 2016.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'identité de l'homme qui a tué 39 personnes lors du réveillon du Nouvel An dans une discothèque d'Istanbul en Turquie pour le compte de l'État islamique a été établie, a annoncé aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères dans une interview à la télévision. Mevlut Cavusoglu n'a pas donné l'identité du tueur. Ce dernier est toujours en fuite et mardi, les médias turcs annonçaient déjà que la police était à la recherche d'un homme de 28 ans de nationalité kirghize. L'agence de presse Anatolie a fait état d'une vingtaine d'arrestations dans le cadre de l'enquête. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
moi je viens de là où